Nous autres de la radio, prenons plaisir à vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette dévotion, tout en demandant au Seigneur Jésus de nous ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions mieux le livre du prophète Ésaïe, son importance, sa destination pour nos âmes, et aussi que nous arrivions à être consolés de la consolation du Saint-Esprit. Ce jour-ci, aujourd'hui, nous sommes bien contents de pouvoir nous pencher sur un sujet pas trop facile à la vérité. C'est la leçon numéro 4, le chemin le plus ardu. Pour ce faire, nous allons donner des détails concernant la leçon. Et après, vous verrez comment elle est claire, elle est bienfaisante. Les principaux détails: Akaz est un mauvais roi. Israël et Syrie se sont soulevés contre lui. Il a recours à la Syrie. Ésaïe lui propose de se confier en l'Éternel. Akaz refuse. Néanmoins, Dieu va punir Israël et Syrie. Pour persuader Akaz, il lui donne un signe avec détail. Ésaïe est l'ambassadeur de Dieu dans toutes ces choses. Akaz sans tête. Et Juda et la Syrie seront finalement détruits. Mais Ésaïe exhorte Juda à ne craindre que l'Éternel. Tels sont les différents points que nous allons voir en vue de mieux éclaircir le sujet titré « Le chemin le plus ardu ». Une fois de plus, bienvenue parmi nous. Le chemin le plus ardu. Que veut dire ce titre? Chemin ardu, chemin d'accès difficile, chemin pénible, chemin fatigant. Le chemin le plus ardu, c'est le chemin le plus difficile à atteindre, le plus fatigant, le plus pénible. Il y a donc une comparaison ici. Avant d'établir la comparaison, étudions en gros toute la leçon afin de mieux comprendre les choses. Premier point, Akaz est un mauvais roi. Akaz est un mauvais roi. Comme le témoigne 2 rois 16, verset 1 à 4. 2 rois 16, verset 1 à 4. La 10e année de Pekak, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Ainsi, Akaz est un méchant devant l'Éternel. Il fait ce qui est mal. Et n'importe quelle personne en ce bas monde qui pratique les mêmes œuvres qu'Akaz est un mauvais personnage. Certainement, il suit un chemin mauvais et même le chemin le plus ardu. Parce que Akaz est mauvais, méchant devant l'Éternel, celui-ci va essayer de lui enseigner une leçon par une attaque, une coalition des rois de Samarie et de Syrie. Voyons 2 Chroniques 28, versets 5 à 8. 2 Chroniques, chapitre 28, versets 5 à 8. Le texte nous dit, l'Éternel son Dieu le livra, c'est-à-dire livra à Akab, entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Pekak, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent, parmi leurs frères, 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils amenèrent à Samarie. Oui, parce que Akal est un mauvais roi, l'Éternel a soulevé contre lui les rois de Samarie et de Syrie. Samarie est au nord de Juda. Syrie est à l'ouest de Samarie. Pour que la Syrie atteigne Juda, elle doit passer par la Samarie. C'est pourquoi nous avons cette coalition de Syriens et de Samaritains contre Akal. Celui-ci, à son tour, au lieu de recourir à l'Éternel, fit appeler à son secours le roi d'Assyrie, tel que nous allons le voir dans 2 Rois 16, versets 7 à 9. 2 Rois 16, versets 7 à 9. Oui, le méchant, quand il s'engage, ou plutôt quand il s'est engagé dans une mauvaise voie, a de la peine à en revenir. Parce que Akal avait abandonné l'Éternel, au moment des difficultés, au lieu de rechercher le Dieu de ses pères, il a préféré se confier en l'homme et à l'homme. Dans 2 Rois, chapitre 16, versets 7 à 9, nous lisons, Akal envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akal prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin. Ainsi, Akab eut recours à l'homme au lieu de recourir à Dieu. Et même, il se donne à l'homme un hommage personnel comme s'il s'est donné à Dieu. Que fit-il dire au roi d'Assyrie? Je suis ton serviteur et ton fils. Alors qu'en réalité, il devrait être le serviteur de Dieu et le fils de Dieu par la foi en l'Éternel. Maintenant que Akal s'est engagé totalement sur cette voie mauvaise, savoir toutes sortes d'abominations devant l'Éternel, ensuite rejeter le Seigneur au profit d'un homme, le Seigneur l'Éternel, lui, ne l'a pas encore vraiment rejeté. Il va lui proposer de se confier en l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. C'est ainsi que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 1er. Ésaïe 7, à partir du verset 1er. Il arriva au côté du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Samarie, monta avec Pekak, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ainsi, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, l'Éternel fit dire à Akaz, quoique celui-ci fût méchant, de se confier en lui, car la coalition syro-samaritaine ne réussira point dans son entier, même si beaucoup de gens sont morts et beaucoup d'autres sont faits prisonniers. Maintenant, devant une si belle proposition, le roi Akaz ne pouvait que se rendre. Laissez-moi redire la proposition. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oh, chrétien, l'Éternel vous fait dire qu'une coalition de méchants ne pourra pas te vaincre, te battre ou te détruire. La nouvelle est venue de l'Éternel, le maître du ciel et de la terre. Quelle autre bonne nouvelle, ou bientôt, quelle autre meilleure nouvelle pourrait arrivé aux oreilles d'Akaz? Je ne pense pas. Mais il y a plus. Oui, il y a plus. Ésaïe va proposer à Akaz non seulement de se confier à l'Éternel, mais un signe pour lui montrer, pour lui assurer que l'Éternel accomplira ce qu'il a. En effet, dans Ésaïe chapitre 7, oui, Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10, nous lisons. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Oh, pourquoi? Pourquoi cette proposition? Afin de rassurer la foi d'Achaz, en cas où celui-ci vient à se confier en l'Éternel. Rassurer Achaz que la parole qui vient d'être dite par Esaïe sera quand même accomplie. Savoir les Syriens et les Samaritains, ainsi que les Éphraïmites, ne réussiront pas totalement dans leur coalition contre Achaz. Et le texte dit clairement, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Toutefois, qu'est-ce que nous voyons? Au lieu qu'Achaz profite de l'occasion pour accepter le signe que Dieu lui propose, voici sa réaction. Isaïe 7, verset 12. Achaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Question, y a-t-il vraiment tentation de l'Éternel dans ce cas? Loin de là, puisque c'est l'Éternel le proposant. S'il a proposé ce qu'il veut faire, et s'il veut faire, c'est pour le bien du roi idolâtre, impénitent et inique. Bien-aimé, quand l'homme se jette dans le mal, il a bien de la peine à reconnaître le bien. Oui, bien de la peine, il a beaucoup de peine à reconnaître le bien. Achaz refuse le signe, refuse de demander un signe. Néanmoins, le prophète Esaïe va lui proposer un quand même. Disons, il va le lui proposer, même s'il refuse. Esaïe 7. Esaïe dit alors, au verset 13, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu vas, dont tu crains les deux rois, sera abandonné. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Une parenthèse. Certainement, cette prophétie concerne le Seigneur Jésus par Sainte Marie. Cependant, ça c'est l'accomplissement lointain. Il y a un accomplissement proche, puisque au verset 16, verset 15 et 16, le prophète dit, « L'enfant mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Quels sont les deux rois? Pekat, roi de Samarie, Ritsin, roi de Syrie. Ce pays-là, puisqu'ils sont en coalition, au lieu d'être deux, ils sont maintenant un, eh bien, ce pays sera abandonné. Comment le pays sera-t-il abandonné? Dieu va susciter les Assyriens et par eux, le pays connaîtra ce qu'il doit connaître. C'est ainsi que nous lisons dans 2 Rois chapitre 16, versets 7 à 9, que je vous ai d'ailleurs déjà lu. Achaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Ritsa. Question. Pourquoi le roi d'Assyrie? Je viens de vous dire tout à l'heure que la Samarie, ainsi que son roi Pekak, se trouve au nord du royaume de Juda. La Syrie est à l'est de la Samarie. Ainsi, quant à Akaz, au sud de la Syrie et de la Samarie, envoya chercher le roi d'Assyrie, il a bien fait parce que la Syrie est au nord de la Syrie et au nord-est de la Samarie. Ainsi, le roi d'Assyrie, en venant secourir Akaz au sud, ne pouvait passer que par la Syrie et Samarie. C'est pourquoi le roi d'Assyrie a attaqué la Syrie ainsi que Samarie en vue de secourir Juda. Car sitôt que la Syrie aurait attaqué la Syrie et Samarie, ces deux royaumes auraient à faire face à une attaque par derrière. Ils devraient donc faire volte-face, c'est-à-dire se tout donner dos à Juda, faire face à la Samarie, et alors Juda serait délivré. Oui, Juda serait délivré. C'est pourquoi nous disons la première partie de la leçon, une prophétie réalisée. Oui, Esaïe étant l'ambassadeur de Dieu dans toutes ces choses, c'est-à-dire le personnage par lequel le Seigneur parle à Akaz, nous lisons: j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Je vous dis, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. En effet, nous avons déjà vu que la première fois que le prophète Esaïe s'est présenté devant le roi Akaz, le Seigneur, l'Éternel, lui avait demandé d'aller auprès du roi avec son propre fils chez Jashub. Un peu plus tard, quand le prophète a proposé le signe refusé par Akaz, l'enfant, un enfant qui devait naître, on devrait donner comme nom à cet enfant le Emmanuel, Emmanuel. Ainsi, le prophète a raison de dire, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes en Israël. D'où la partie de la leçon qui parle de l'importance d'un nom. Nous allons y revenir dans quelques instants. Maintenant qu'Esaïe est l'ambassadeur de Dieu dans toutes ces choses, Akaz, la promesse à Akaz demeure encore. Cependant, celui-ci s'entête. Il devient plus méchant. Car nous lisons dans 2 Rois 16, versets 10 à 18, le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Juste avant, faisons une parenthèse. Pourquoi il est allé au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, à Damas? Je viens de vous dire que ce roi d'Assyrie avait envahi la Syrie sur la demande, ou plutôt sur la prière même d'Akaz. Et pendant que le roi d'Assyrie était en Syrie, ravageant et détruisant, le roi Akaz se rendit à Damas au devant de lui. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices de grâce. Il éloigna de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, versez-y leur libation et répandit tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Mes chers amis, Akaz n'est pas seulement méchant. Je n'ai pas de terme pour le déterminer. Car cette fois-ci, non seulement il continue dans ses abominations, mais il s'attaque directement à l'Éternel en changeant l'autel qui était dans le temple de l'Éternel contre un autel païen. Le modèle du temple qui était à Jérusalem, le modèle de l'autel qui était dans le temple de Jérusalem, a été donné par l'Éternel lui-même à David et réalisé par Salomon. Maintenant, Akaz, lui, il a pris le modèle d'un autel païen à Damas pour le faire construire à Jérusalem en vue de remplacer celui de l'Éternel. Et c'est sur cet autel païen que Akaz va monter lui-même comme s'il était sacrificateur pour offrir de l'encens. En plus, il va demander au vrai sacrificateur de l'Éternel de se servir de cet autel, imitation de l'autel païen, pour remplacer celui de l'Éternel. Et c'est sur cet autel que le sacrificateur Uri, désormais, offrira les sacrifices du peuple à l'Éternel. Il change les choses de Dieu. Bien-aimé, quelle abomination plus criante, quelle méchanceté plus forte, quelle iniquité plus, je n'ai pas de terme. Je ne pense pas que vous l'ayez. Peut-être l'avez-vous, mais moi je ne l'ai pas. Un homme qui remplace les choses de l'Éternel par des choses humaines. Des choses venant de son propre cœur. Akaz s'est donc entêté dans le mal, et qu'est-ce que nous allons faire? Et Judas et la Syrie seront détruits. Oui, Judas sera quand même détruit. C'est ce que dit Ésaïe dans Ésaïe 7, à partir du verset 17. Jusqu'au verset 25. Cependant, le prophète Ésaïe, voyant tous ces malheurs qui doivent arriver, exhorte Judas à ne craindre que l'Éternel, puisque Akaz lui-même ne fait que conduire le peuple d'abomination en abomination. Le prophète Ésaïe, par sa prédication, exhorte le peuple à se détacher d'Akaz par la confiance
en l'Éternel, en se confiant en l'Éternel. Et si nous lisons dans Ésaïe 8, versets 11 à 16, Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 16, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de standard pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, celle de cette révélation parmi mes disciples. Bien-aimés, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Maintenant, je résume pour vous leçon numéro 8 du chemin le plus ardu. Akaz est un roi idolâtre. En conséquence, l'Éternel a soulevé contre lui la Samarie et la Syrie. Au lieu de se confier en l'Éternel, il a appelé à son secours le roi d'Assyrie. Celui-ci est effectivement venu et a détruit la Samarie et la Syrie. Toutefois, pour montrer que la coalition Syrie-Samarie ne réussirait pas, Dieu proposa à Akaz de lui demander un signe. Celui-ci a refusé. Néanmoins, le prophète Ésaïe le lui donna quand même pour le persuader. Mais au lieu de se laisser persuader, Akaz devient plus méchant. Il va substituer à l'autel de l'Éternel à Jérusalem un autel païen. Ce voyant, le prophète Ésaïe exhorte Juda en général à ne craindre que l'Éternel. Maintenant que nous avons fait tout cela, prenons quelques notes éparses. Emmanuel est un signe en rapport avec le dilemme propre à Akaz, puisque Emmanuel signifie Dieu avec nous. De fait, le Seigneur l'Éternel a donné un enfant au prophète Ésaïe. L'enfant s'appelait Mahal, oh, le nom est difficile, je ne vais pas le prononcer, mais vous le lirez quand même dans la Bible. Un petit peu plus tard, il est dit que nous devons apprendre à garder notre foi intacte afin de ne pas faiblir quand les désastres de demain surviendront. En effet, celui qui en devient habile en s'exerçant, oui, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En d'autres termes, celui qui garde sa foi en l'Éternel dans les bons jours pourra le garder dans les mauvais jours, à condition qu'il l'ait bien exercé dans ses bons jours. Et celui qui ne se sera pas confié en l'Éternel dans les bons jours ne pourra pas se confier non plus dans les mauvais jours. C'est ce qu'Akaz avait fait. En outre, pour Akaz, homme de peur plutôt que de foi, la bonne nouvelle annoncée par le Seigneur était que la Syrie et Israël seraient effacés. Et la mauvaise nouvelle, que la Syrie, son allié et ami, qu'il avait appelé à l'aide, se révélerait un ennemi beaucoup plus dangereux que ces deux nations réunies. En refusant de la délivrance offerte gratuitement par Dieu, Akaz se vouait à la défaite. Si le roi avait l'impression que son univers s'effondrait maintenant, les choses allaient empirer, les conséquences annoncées. Lorsque nous allons plus loin, on nous dit, quand Esaïe a légalement fait enregistrer le nom du garçon avant même sa conception, il a fait de l'enfant et de son nom une prophétie publique que confirmeraient les événements ultérieurs. Et c'était rien. Maintenant, craindre véritablement Dieu parce qu'il est saint indique que vous reconnaissez en lui la plus grande puissance de l'univers. Que vous l'aimiez ou non, une telle crainte surpasse tout autre peur. S'il est pour vous, personne ne peut vous toucher sans sa permission. S'il est contre vous, parce que vous êtes rébellé, vous êtes rébellé contre lui, vous pouvez vous enfuir, mais pas vous cacher devant lui. À la vérité, il existe différentes sortes de craintes. Si vous avez pour ami un être d'une puissance impressionnante, et qu'il y a entre vous un amour mutuel, vous n'avez pas peur qu'il vous fasse du mal, mais vous éprouvez une sorte de crainte en ce sens que vous reconnaissez et respectez la puissance de cette personne et les limites de votre relation. Ainsi, la crainte pour Dieu, quand on l'aime, ce n'est pas de la peur, c'est plutôt un saint respect. Bien-aimés, j'estime que vous avez compris. J'estime que vous n'allez pas suivre la voie du roi Carl. Que vous allez vous détourner de tout ce qui est mauvais. Car le chemin le plus ardu, c'est le chemin du mal. Le chemin qui conduit à plus de peine, plus de difficultés, plus de chagrin. Vous avez seulement votre femme légitime pour femme. Par conséquent, pas de problème. Mais dès que vous avez une deuxième femme, votre misère commence. C'est un exemple que je vous dis. Ainsi, le chemin le plus ardu, c'est celui qui conduit aux calamités, plurielles, et à la ruine. C'est le chemin du péché, idolâtrie, parjure, rébellion, crime, adultère, mensonge, vol, convoitise, sorcellerie, magie, etc. Toute personne intelligente qui pratique ces choses suit un chemin très ardu. Et pourquoi dit-on le plus ardu? C'est qu'il y a une comparaison. Il y a un chemin moins ardu, c'est-à-dire un chemin plus accessible et qui donne moins de peine sur son parcours. Lequel? C'est la confiance, le chemin de la confiance en l'Éternel, le chemin de la foi et de l'obéissance. Que nous dit le texte? Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais si vous croyez, vous subsisterez. Alors, mon bon ami, que préférez-vous? Ne pas subsister ou aller à la ruine? Ou bien subsister ou demeurer devant Dieu? À vous de choisir.
Mon gouverneur, malgré moi,